Le capital sans les notes. Livre premier, huitième section, chapitre 27. L'expropriation de la population campagnarde. En Angleterre, le servage avait disparu de fait vers la fin du XIVe siècle. L'immense majorité de la population se composait alors, et plus entièrement encore au XVe siècle, de paysans libres cultivant leurs propres terres, quels que fussent les titres féodaux dont on affubla leurs droits de possession. Dans les grands domaines seigneuriaux, l'ancien bailli, bailiff entre parenthèses, serf lui-même, avait fait place aux fermiers indépendants. Les salariés ruraux étaient en partie des paysans, qui pendant le temps de loisir laissé par la culture de leurs champs se louaient au service des grands propriétaires, en partie une classe particulière et peu nombreuse de journaliers. Ceux-ci même étaient aussi dans une certaine mesure cultivateurs de leur chef, car en sus du salaire, on leur faisait concession de champs d'au moins 4 acres avec des cottages. De plus, ils participaient, concurremment avec les paysans proprement dits, à l'usufruit des biens communaux où ils faisaient paître leur bétail et se pourvoyaient de bois, de tourbe, etc., pour le chauffage. Nous remarquerons en passant que le serf même était non seulement possesseur, tributaire il est vrai, des parcelles attenant à sa maison, mais aussi copossesseur des biens communaux. Par exemple, quand Mirabeau publia son livre « De la monarchie prussienne », le servage existait encore dans la plupart des provinces prussiennes, entre autres en Silésie. Néanmoins, les serfs y possédaient des biens communaux. Ouvrez les guillemets. On a pu encore, dit-il, note de la donnesse de voix, comprendre on n'a pas pu encore, fin de la note de la donneuse de voix, donc, ouvrez les guillemets. On a pu encore, dit-il, engager les Silésiens au partage des communes, tandis que dans la nouvelle marche, il n'y a guère de village où ce partage ne soit exécuté avec le plus grand succès. Fermez les guillemets. Le trait le plus caractéristique de la production féodale dans tous les pays de l'Europe occidentale, c'est le partage du sol entre le plus grand nombre possible d'hommes liges. Il en était du seigneur féodal comme de tout autre souverain. Sa puissance dépendait moins de la rondeur de sa bourse que du nombre de ses sujets, c'est-à-dire du nombre des paysans établis sur ses domaines. Le Japon, avec son organisation purement féodale de la propriété foncière et sa petite culture, offre donc, à beaucoup d'égards, une image plus fidèle du Moyen-Âge européen que nos livres d'histoire imbus de préjugés bourgeois. Il est par trop commode d'être « libéral » entre guillemets, aux dépens du Moyen-Âge. Bien que la conquête normande eût constitué toute l'Angleterre en baronnies gigantesques, dont une seule comprit souvent plus de 900 seigneuries anglo-saxonnes, le sol était néanmoins parsemé de petites propriétés rurales interrompues çà et là par de grands domaines seigneuriaux. Dès que le servage eut donc disparu et qu'au XVe siècle la prospérité des villes prit un grand essor, le peuple anglais atteignit l'état d'aisance si éloquemment dépeint par le chancelier Fortescue dans ses Laudes Legum Angliae. Mais cette richesse du peuple excluait la richesse capitaliste. La révolution qui allait jeter les premiers fondements du régime capitaliste eut son prélude dans le dernier tiers du XVe siècle et au commencement du XVIe. Alors, le licenciement des nombreuses suites seigneuriales, dont Sir John Stuart dit pertinemment qu'elles, ouvrez les guillemets, encombraient la tour et la maison, fermez les guillemets, lança à l'improviste sur le marché du travail une masse de prolétaires sans feu ni lieu. Bien que le pouvoir royal, sorti lui-même du développement bourgeois, fût, dans sa tendance à la souveraineté absolue, poussé à activer ce licenciement par des mesures violentes, il n'en fut pas la seule cause. En guerre ouverte avec la royauté et le Parlement, les grands seigneurs créèrent un prolétariat bien autrement considérable en usurpant les biens communaux des paysans et les chassant du sol qu'ils possédaient au même titre féodal que leurs maîtres. Ce qui, en Angleterre, donna surtout lieu à ces actes de violence, ce fut l'épanouissement des manufactures de laine en Flandre et la hausse des prix de la laine qui en résulta. La longue guerre des deux roses ayant dévoré l'ancienne noblesse, la nouvelle, fille de son époque, regardait l'argent comme la puissance des puissances. Transformation des terres arables en pâturage, tel fut son cri de guerre. Dans sa, ouvrez guillemets, Description of England, prefixed to Holinshed's Chronicle, fermez les guillemets, Harrison raconte comment l'expropriation des paysans a désolé le pays. Ouvrez les guillemets. Mais qu'importe à nos grands usurpateurs, ouvrez la parenthèse. What care our great encroachers, fermez la parenthèse. Les maisons des paysans et les cottages des travailleurs ont été violemment rasés ou condamnés à tomber en ruine. Si l'on veut comparer les anciens inventaires de chaque manoir seigneurial, on trouvera que d'innombrables maisons ont disparu avec les petits cultivateurs qui les habitaient, que le pays nourrit beaucoup moins de gens, que beaucoup de villes sont déchues, bien que quelques-unes de nouvelles fondations prospèrent, point de suspension. À propos des villes et des villages détruits pour faire des parcs à moutons, et où l'on ne voit plus rien debout, sauf les châteaux seigneuriaux, j'en aurai long à dire. Fermez les guillemets. Les plaintes de ces vieux chroniqueurs, toujours exagérées, dépeignent pourtant d'une manière exacte l'impression produite sur les contemporains par la révolution survenue dans l'ordre économique de la société. Que l'on compare les écrits du chancelier Fortescue avec ceux du chancelier Thomas Morris, et l'on se fera une idée de l'abîme qui sépare le XVe siècle du XVIe. En Angleterre, la classe travailleuse, dit fort justement Thornton, fut précipitée sans transition de son âge d'or dans son âge de fer. Ce bouleversement fit peur à la législature. Elle n'avait pas encore atteint ce haut degré de civilisation où la richesse nationale, ouvrez la parenthèse, wealth of the nation, fermez la parenthèse, c'est-à-dire l'enrichissement des capitalistes, l'appauvrissement et l'exploitation effrontée de la masse du peuple passe pour l'ultima thule de la sagesse d'État. Ouvrez le guillemet. Vers cette époque, 1489 entre parenthèses, dit Bacon dans son histoire d'Henri VII, les plaintes à propos de la conversion des terres arables en pacage, qui n'exigent que la surveillance de quelques bergers, devinrent de plus en plus nombreuses. Et des fermes amaudiées à vie, à long terme ou à l'année, dont vivaient en grande partie des yeomen, furent annexées aux terres domaniales. Il en résulta un déclin de la population, suivi de la décadence de beaucoup de villes, d'églises, d'une diminution des dîmes, etc. Point de suspension. Les remèdes apportés à cette funeste situation témoigne d'une sagesse admirable de la part du roi et du parlement. Ils prirent des mesures contre cette usurpation dépopulatrice des terrains communaux, depopulating enclosures, entre parenthèses, et contre l'extension des pâturages dépopulateurs, depopulating pasture, entre parenthèses, qui la suivait de près, fermez les guillemets. Une loi d'Henri VII, 1489-C-19, interdit la démolition de toute maison de paysans avec attenance d'au moins 20 acres de terre. Cette interdiction est renouvelée dans une loi de la 25e année du règne d'Henri VIII, où il est dit, entre autres, que, ouvrez le guillemet, beaucoup de fermes et de grands troupeaux de bétail, surtout de moutons, s'accumulent en peu de mains, d'où il résulte que les rentes du sol s'accroissent, mais que le labourage, tillage entre parenthèses, déchoit, que des maisons et des églises sont démolies, et d'énormes masses de peuple se trouvent dans l'impossibilité de subvenir à leur entretien et à celui de leur famille. Fermez les guillemets. La loi ordonne, par conséquent, la reconstruction des maisons de ferme démolies, fixe la proportion entre les terres à blé et les pâturages, etc. Une loi de 1533 constate que certains propriétaires possèdent 24 000 moutons et leur impose pour limite le chiffre de 2 000, etc. Les plaintes du peuple, de même que les lois promulguées depuis Henri VII, pendant 150 ans, contre l'expropriation des paysans et des petits fermiers, restèrent également sans effet. Dans ses Essays Civil and Moral, section 20, Bacon trahit à son insu le secret de leur inefficacité. Ouvrez les guillemets. La loi d'Henri VII, dit-il, fut profonde et admirable en ce sens qu'elle créa des établissements agricoles et des maisons rurales d'une grandeur normale déterminée, c'est-à-dire qu'elle assura aux cultivateurs une portion de terre suffisante pour les mettre à même d'élever des sujets jouissant d'une honnête aisance et de conditions non serviles, et pour maintenir la charrue entre les mains de propriétaires et non de mercenaires. Ouvrez la parenthèse. To keep the plough in the hand of the owners and not hirelings. Fermez la parenthèse, fermez les guillemets. Ce qu'il fallait à l'ordre de production capitaliste, c'était au contraire la condition servile des masses, leur transformation en mercenaires et la conversion de leurs moyens de travail en capital. Dans cette époque de transition, la législation chercha aussi à maintenir les 4 acres de terre auprès du cottage du salarié agricole et lui interdit de prendre des sous-locataires. En 1627, sous Jacques Ier, Roger Crocker de Frontmill est condamné pour avoir bâti un cottage sur le domaine seigneurial de ce nom sans y avoir annexé 4 acres de terre à perpétuité. En 1638, sous Charles Ier, on nomme une commission royale pour faire exécuter les anciennes lois, notamment celle sur les 4 acres. Cromwell aussi interdit de bâtir près de Londres, à 4 000 à la ronde, aucune maison qui ne fût dotée d'un champ de 4 acres au moins. Enfin, dans la première moitié du XVIIIe siècle, on se plaint encore dès qu'il n'y a pas 1 ou 2 acres de terre adjoints au cottage de l'ouvrier agricole. Aujourd'hui, ce dernier se trouve fort heureux quand il a un petit jardin ou qu'il trouve à louer à une distance considérable un champ de quelques mètres carrés. Ouvrez les guillemets. Landlords et fermiers, dit le docteur Hunter, se prêtent main forte. Quelques acres ajoutés à son cottage rendraient le travailleur trop indépendant. Fermez les guillemets. La réforme et la spoliation des biens d'église qui en fut la suite vint donner une nouvelle et terrible impulsion à l'expropriation violente du peuple au XVIe siècle. L'église catholique était à cette époque propriétaire féodale de la plus grande partie du sol anglais. La suppression des cloîtres, etc., en jeta les habitants dans le prolétariat. Les biens même du clergé tombèrent entre les griffes des favoris royaux ou furent vendus à vil prix à des citadins, à des fermiers spéculateurs qui commencèrent par chasser en masse les vieux tenanciers héréditaires. Le droit de propriété des pauvres gens sur une partie des dîmes ecclésiastiques fut tacitement confisqué. Ouvrez les guillemets. Pas au père ubique jacet, fermez les guillemets. S'écriait la reine Élisabeth après avoir fait le tour de l'Angleterre. Note de la donneuse de voix, selon Google Translate, des pauvres se trouvent partout. Fin de la note de la donneuse de voix. Donc, ouvrez le guillemet. Pas au père ubique jacet, fermez le guillemet, s'écriait la reine Élisabeth après avoir fait le tour de l'Angleterre. dans la 43e année de son règne, on se voit enfin forcé de reconnaître le paupérisme comme institution nationale et d'établir la taxe des pauvres. Les auteurs de cette loi eurent honte d'en déclarer les motifs et la publièrent sans aucun préambule contre l'usage traditionnel. Sous Charles Ier, le Parlement la déclara perpétuelle et elle ne fut modifiée qu'en 1834. Alors, de ce qui leur avait été originellement accordé comme indemnité de l'expropriation subie, on fit aux pauvres un châtiment. Le protestantisme est essentiellement une religion bourgeoise. Pour en faire ressortir « l'esprit », entre guillemets, un seul exemple suffira. C'était encore au temps d'Élisabeth. Quelques propriétaires fonciers et quelques riches fermiers de l'Angleterre méridionale se réunirent en conciliabule pour approfondir la loi sur les pauvres récemment promulguée. Puis, ils résumèrent le résultat de leurs études communes dans un écrit contenant 10 questions raisonnées qu'ils soumirent ensuite à l'avis d'un célèbre jurisconsulte d'alors, le sergent Snegg, élevé au rang de juge sous le règne de Jacques Ier. En voici un extrait. Ouvrez les guillemets. 9e question. Quelques-uns des riches fermiers de la paroisse ont projeté un plan fort sage au moyen duquel on peut éviter toute espèce de trouble dans l'exécution de la loi. Ils proposent de faire bâtir dans la paroisse une prison. Tout pauvre qui ne voudra pas s'y laisser enfermer se verra refuser l'assistance. On fera ensuite savoir dans les environs que, si quelque individu désire louer les pauvres de cette paroisse, il aura à remettre, à un terme fixé d'avance, des propositions cachetées indiquant le plus bas prix auquel il voudra nous en débarrasser. Les auteurs de ce plan supposent qu'il y a dans les comtés voisins des gens qui n'ont aucune envie de travailler et qui sont sans fortune ou sans crédit pour se procurer soit ferme, soit vaisseau, afin de pouvoir vivre sans travail. Ouvrez la parenthèse. So as to live without labor. Fermez la parenthèse. Ces gens-là seraient tout disposés à faire à la paroisse des propositions très avantageuses. Si ça et là des pauvres venaient à mourir sous la garde du contractant, la faute en retomberait sur lui, la paroisse ayant rempli à l'égard de ses pauvres tous ses devoirs. Nous craignons pourtant que la loi dont il s'agit ne permette pas des mesures de prudence. Prudential measures, entre parenthèses, de ce genre. Mais il vous faut savoir que le reste des freeholders, francs tenanciers, entre parenthèses, de ce comté et des comtés voisins, se joindra à nous pour engager leurs représentants à la Chambre des communes à proposer une loi qui permette d'emprisonner les pauvres et de les contraindre au travail, afin que tout individu qui se refuse à l'emprisonnement perde son droit à l'assistance. Ceci, nous l'espérons, va empêcher les misérables d'avoir besoin d'être assistés. Ouvrez la parenthèse. Will prevent person in distress from wanting relief. Fermez la parenthèse. Fermez les guillemets. Cependant, ces conséquences immédiates de la réformation n'en furent pas les plus importantes. Note de la donneuse de voix. Marx ou son traducteur utilise « réforme » ou « réformation » comme en anglais pour désigner la réforme protestante. Fin de la note de la donneuse de voix. Donc, cependant, ces conséquences immédiates de la réformation n'en furent pas les plus importantes. La propriété ecclésiastique faisait à l'ordre traditionnel de la propriété foncière comme un boulevard sacré. La première emportée d'assaut, la seconde n'était plus tenable. Dans les dernières années du XVIIe siècle, la yeomanry, classe de paysans indépendants, la, ouvrez les guillemets, proud peasantry, enfin les guillemets de Shakespeare, dépassait encore en nombre l'état des fermiers. C'est elle qui avait constitué la force principale de la République anglaise. Ses mœurs et ses habitudes formaient, de l'aveu même de Macaulay, Le contraste le plus frappant avec celle des hobereaux contemporains, Nemrods grotesques, grossiers, ivrognes, et de leurs valets, les curés de village, épouseurs empressés des « servantes favorites » entre guillemets, de la gentilhommerie compagnarde. Vers 1750, la yeomanerie avait disparu. Laissant de côté les influences purement économiques qui préparaient l'expropriation des cultivateurs, nous ne nous occupons ici que des leviers appliqués pour en précipiter violemment la marche. Sous la restauration des Stuarts, les propriétaires fonciers vinrent à bout de commettre légalement une usurpation, accomplie ensuite sur le continent sans le moindre détour parlementaire. Ils abolirent la constitution féodale du sol, c'est-à-dire qu'ils le déchargèrent des servitudes qui le grévaient, en dédommageant l'État par des impôts à lever sur les paysans et le reste du peuple, revendiquèrent à titre de propriété privée, dans le sens moderne, des biens possédés en vertu des titres féodaux, et couronnèrent l'œuvre en octroyant aux travailleurs ruraux ces lois sur le domicile légal, « laws of settlement », entre parenthèses, qui faisait d'eux une appartenance de la paroisse, tout comme le fameux édit du tartare Boris Goudounov avait fait des paysans russes une appartenance de la glèbe. La glorieuse révolution, Glorious Revolution, entre parenthèses, amena au pouvoir, avec Guillaume III, prince d'Orange, faiseur d'argent, noble terrien et capitaliste roturier. Ils inaugurèrent l'ère nouvelle par un gaspillage vraiment colossal du trésor public. Les domaines de l'État que l'on avait pillés jusque-là qu'avec modestie, dans des limites conformes aux bienséances, furent alors extorqués de vive force aux rois parvenus comme pots de vin dus à des anciens complices, ou vendus à des prix dérisoires, ou enfin, sans formalité aucune, simplement annexés à des propriétés privées. Tout cela à découvert, bruyamment, effrontément, au mépris même des semblants de l'égalité. Cette appropriation frauduleuse du domaine public et le pillage des biens ecclésiastiques, voilà, si l'on en excepte ceux que la Révolution républicaine jeta dans la circulation, la base sur laquelle repose la puissance domaniale de l'oligarchie anglaise actuelle. Les bourgeois capitalistes favorisèrent l'opération dans le but de faire de la terre un article de commerce, d'augmenter leur approvisionnement de prolétaires campagnards, d'étendre le champ de la grande agriculture, etc. Du reste, la nouvelle aristocratie foncière était l'allié naturel de la nouvelle bancocratie, de la haute finance fraîche et close et des gros manufacturiers, alors fauteurs du système protectionniste. La bourgeoisie anglaise agissait conformément à ses intérêts. Tout comme le fit la bourgeoisie suédoise en se ralliant au contraire aux paysans, afin d'aider les rois à ressaisir, par des mesures terroristes, les terres de la couronne escamotées par l'aristocratie. La propriété communale, tout à fait distincte de la propriété publique dont nous venons de parler, était une vieille institution germanique restée en vigueur au milieu de la société féodale. On a vu que les empiétements violents sur les communes, presque toujours suivis de la conversion des terres arables en pâturage, commencèrent au dernier tiers du XVe siècle et se prolongèrent au-delà du XVIe. Mais ces actes de rapine ne constituaient alors que des attentats individuels, combattus, vainement il est vrai, pendant 150 ans, par la législature. Mais au XVIIIe siècle, voyez le progrès, la loi même devint l'instrument de spoliation, ce qui d'ailleurs n'empêcha pas les grands fermiers d'avoir aussi recours à de petites pratiques particulières et, pour ainsi dire, extra-légales. La forme parlementaire du vol commis sur les communes est celle de, ouvrez les guillemets, « loi sur la clôture des terres communales », fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Bills for Enclosures of Commons, fermez la parenthèse. Ce sont en réalité des décrets au moyen desquels les propriétaires fonciers se font eux-mêmes cadeau des biens communaux, des décrets d'expropriation du peuple. Dans un plaidoyer d'avocat retort, Sir F. M. Hudden cherche à présenter la propriété communale comme propriété privée, bien qu'indivise encore, les landlords modernes ayant pris la place de leurs prédécesseurs, les seigneurs féodaux. Mais il se réfute lui-même en demandant que le Parlement vote un statut général sanctionnant une fois pour toutes l'enclos des communaux. Et, non content d'avoir ainsi avoué qu'il faudrait un coup d'État parlementaire pour légaliser le transfert des biens communaux aux landlords, il consomme sa déroute en insistant, par acquis de conscience, sur l'indemnité due aux pauvres cultivateurs. S'il n'y avait pas d'expropriés, il n'y avait évidemment personne à indemniser. En même temps que la classe indépendante des yeomen était supplantée par celle des tenants at will, des petits fermiers dont le bail peut être résilié chaque année, race timide, servile, à la merci du bon plaisir seigneurial, le vol systématique des terres communales, joint au pillage des domaines de l'État, contribuait à enfler les grandes fermes appelées au XVIIIe siècle, ouvrez les guillemets, fermes à capital, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, fermes de marchands, fermez les guillemets, et à transformer la population des campagnes en prolétariat disponible, entre guillemets, pour l'industrie. Cependant, le XVIIIe siècle ne comprit pas aussi bien que le XIXe l'identité de ces deux termes, richesse de la nation, pauvreté du peuple. De là, la polémique virulente sur l'enclos des communes que l'on rencontre dans la littérature économique de cette époque. Des matériaux immenses qu'elle nous a laissés sur ce sujet, il suffit d'extraire quelques passages qui feront fortement ressortir la situation d'alors. Dans un grand nombre de paroisses de Hertfordshire, écrite une plume indignée, 24 fermes renfermant chacune en moyenne de 50 à 150 acres ont été réunies en 3. Ouvrez les guillemets. Dans le Northamptonshire et le Lincolnshire, il a été procédé en grand à la clôture des terrains communaux, et la plupart des nouvelles seigneuries issues de cette opération ont été converties en pâturage, si bien que, là où on labourait 1500 acres de terre, on n'en laboure plus que 50, point de suspension. Des ruines de maisons, de granges, d'étables, etc. Voilà les seules traces laissées par les anciens habitants. En mains endroits, des centaines de demeures et de familles ont été réduites à 8 ou 10. Dans la plupart des paroisses où les clôtures ne datent que des 15 ou 20 dernières années, il n'y a qu'un petit nombre de propriétaires, comparé à celui qui cultivait le sol alors que les champs étaient ouverts. Il n'est pas rare de voir 4 ou 5 riches éleveurs de bétail usurper des domaines naguère enclos, qui se trouvaient auparavant entre les mains de 20 ou 30 fermiers et d'un grand nombre de petits propriétaires et de manants. Tous ces derniers et leurs familles sont expulsés de leurs possessions, avec nombre d'autres familles qu'ils occupaient et entretenaient. Fermez les guillemets. Ce n'est pas seulement les terres en friche, mais souvent même celles qu'on avait cultivées, soit en commun, soit en payant une certaine redevance à la commune, que les propriétaires limitrophes s'annexèrent sous prétexte d'enclosure. Ouvrez les guillemets. Je parle ici de la clôture de terrains et de champs déjà cultivés. Les écrivains mêmes qui soutiennent les clôtures conviennent que, dans ce cas, elles réduisent la culture, font hausser le prix des subsistances et amènent la dépopulation, point de suspension. Et, lors même qu'il ne s'agit que de terres incultes, l'opération telle qu'elle se pratique aujourd'hui enlève aux pauvres une partie de ses moyens de subsistance et active le développement de fermes qui sont déjà trop grandes. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Quand le sol, dit le docteur Price, tombe entre les mains d'un petit nombre de grands fermiers, les petits fermiers, ouvrez le crochet, qui là, en un autre endroit, désignés comme autant de petits propriétaires et tenanciers vivant eux et leurs familles du produit de la terre qu'ils cultivent, des moutons, de la volaille, des porcs, etc., qu'ils envoient paître sur les communaux, fermer le crochet, les petits fermiers seront transformés en autant de gens, forcés de gagner leur subsistance en travaillant pour autrui, et d'aller acheter au marché ce qui leur est nécessaire. Il se fera plus de travail, peut-être, parce qu'il y aura plus de contraintes. Point de suspension. Les villes et les manufactures grandiront parce que l'on y chassera plus de gens en quête d'occupation. C'est en ce sens que la concentration des fermes opère spontanément et qu'elle a opéré depuis nombre d'années dans ce royaume. En somme, et c'est ainsi qu'il résume l'effet général des enclos, la situation des classes inférieures du peuple a empiré sous tous les rapports. Les petits propriétaires et fermiers ont été réduits à l'état de journaliers et de mercenaires, et en même temps, il est devenu plus difficile de gagner sa vie dans cette condition. Fermez les guillemets. Par le fait, l'usurpation des communaux et la révolution agricole dont elle fut suivie se firent sentir si durement chez les travailleurs des campagnes que, d'après Eden lui-même, de 1765 à 1780, leur salaire commença à tomber au-dessous du minimum et dut être complété au moyen de secours officiels. Ouvrez le guillemet. Leur salaire ne suffisait plus, dit-il, aux premiers besoins de la vie. Fermez les guillemets. Écoutons encore un instant un apologiste des enclosures, adversaire du docteur Price. Ouvrez les guillemets. On aurait absolument tort de conclure que le pays se dépeuple parce qu'on ne voit plus dans les campagnes tant de gens perdre leur temps et leur peine. S'il y en a moins dans les champs, il y en a davantage dans les villes. Point de suspension. Si, après la conversion des petits paysans en journaliers, obligés de travailler pour autrui, il se fait plus de travail, n'est-ce pas là un avantage que la nation, ouvrez la parenthèse, dont les susdits convertis, entre guillemets, naturellement ne font pas partie, fermez la parenthèse, ne peut que désirer ? Point de suspension. Le produit sera plus considérable si l'on emploie dans une seule ferme leur travail combiné. Il se formera ainsi un excédent de produits pour les manufactures et celles-ci, vraies mines d'or de notre pays, s'accroîtront proportionnellement à la quantité de grains fournis. Fermez les guillemets. Quant à la sérénité d'esprit, au stoïcisme imperturbable avec lesquels l'économiste envisage la profanation la plus éhontée du, ouvrez les guillemets, droit sacré de la propriété, fermez les guillemets, et les attentats les plus scandaleux contre les personnes, dès qu'ils aident à établir le mode de production capitaliste, on en peut juger par l'exemple de Sir F. M. Eden, Tory et philanthrope. Les actes de rapine, les atrocités, les souffrances qui, depuis le dernier tiers du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, forment le cortège de l'expropriation violente des cultivateurs, le conduisent tout simplement à cette conclusion réconfortante, ouvrez les guillemets, il fallait établir une juste proportion, due proportion, entre parenthèses, entre les terres de labour et les terres de pacage. Pendant tout le XIVe siècle et la plus grande partie du XVe, il y avait encore 2, 3 ou même 4 acres de terre arable contre 1 acre de pacage. Vers le milieu du XVIe siècle, cette proportion vint à changer. Il y eut d'abord 3 acres de pacage sur 2 de sol cultivé, puis 2 de celui-là sur 1 seul de celui-ci, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la juste proportion de 3 acres de terre de pacage sur un seul acre arable. Fermez les guillemets. Au XIXe siècle, on a perdu jusqu'au souvenir du lien intime qui rattachait le cultivateur au sol communal. Le peuple des campagnes a-t-il, par exemple, jamais obtenu un liard d'indemnité pour les 3 511 770 acres qu'on lui a arrachés de 1801 à 1831 et que les landlords se sont donnés les uns aux autres par des bills de clôture? Le dernier procédé d'une portée historique qu'on emploie pour exproprier les cultivateurs s'appelle « clearing of estates », littéralement, ouvrez les guillemets, « éclaircissement de bienfonds », fermez les guillemets. En français, on dit, ouvrez les guillemets, « éclaircir une forêt », fermez les guillemets. Mais « éclaircir des bienfonds », entre guillemets, dans le sens anglais, ne signifie pas une opération technique d'agronomie. C'est l'ensemble des actes de violence au moyen desquels on se débarrasse et des cultivateurs et de leur demeure quand elles se trouvent sur des bienfonds destinés à passer au régime de la grande culture ou à l'état de pâturage. C'est bien à cela que toutes les méthodes d'expropriation considérées jusqu'ici ont abouti en dernier lieu. Et maintenant, en Angleterre, là où il n'y a plus de paysans à supprimer, on fait raser, comme nous l'avons vu plus haut, jusqu'au cottage des salariés agricoles, dont la présence déparerait le sol qu'ils cultivent. Mais le « clearing of estates », entre guillemets, que nous allons aborder, a pour théâtre propre la contrée de prédilection des romanciers modernes, les Highlands d'Écosse. Là, l'opération se distingue par son caractère systématique, par la grandeur de l'échelle sur laquelle elle s'exécute. En Irlande, souvent, un landlord fit raser plusieurs villages d'un coup, mais dans la Haute-Écosse, il s'agit de superficies aussi étendues que plus d'une principauté allemande, et par la forme particulière de la propriété escamotée. Le peuple des Highlands se composait de clans dont chacun possédait en propre le sol sur lequel il s'était établi. Le représentant du clan, son chef ou grand homme entre guillemets, n'était que le propriétaire titulaire de ce sol, de même que la reine d'Angleterre est propriétaire titulaire du sol national. Lorsque le gouvernement anglais parvint à supprimer définitivement les guerres intestines de ces grands hommes, et leur incursion continuelle dans les plaines limitrophes de la Basse-Écosse, ils n'abandonnèrent point leur ancien métier de brigand. Ils n'en changèrent que la forme. De leur propre autorité, ils convertirent leur droit de propriété titulaire en droit de propriété privée. Et, ayant trouvé que les gens du clan, dont ils n'avaient plus à répandre le sang, faisaient obstacle à leur projet d'enrichissement, ils résolurent de les chasser de vive force. Ouvrez les guillemets. Un roi d'Angleterre eût pu tout aussi bien prétendre avoir le droit de chasser ses sujets dans la mer. Fermez les guillemets, dit le professeur Newman. On peut suivre les premières phases de cette révolution, qui commence après la dernière levée du bouclier du prétendant dans les ouvrages de James Anderson, et de James Stuart. Celui-ci nous informe qu'à son époque, au dernier tiers du XVIIIe siècle, la Haute-Écosse présentait encore en raccourci un tableau de l'Europe d'il y a 400 ans. Ouvrez les guillemets. La rente, ouvrez la parenthèse, il appelle ainsi à tort le tribut payé aux chefs de clan, fermez la parenthèse, de cette terre, est très petite par rapport à leur étendue. Mais, si vous la considérez relativement au nombre des bouches que nourrit la ferme, vous trouverez qu'une terre dans les montagnes d'Écosse nourrit peut-être 2 fois plus de monde qu'une terre de même valeur dans une province fertile. Il en est de certaines terres comme de certains couvents de moines mendiants. Plus il y a de bouches à nourrir, mieux ils vivent. Fermez les guillemets. Lorsque l'on commença, au dernier tiers du XVIIIe siècle, à chasser les Gaëls, on leur interdit en même temps l'émigration à l'étranger, afin de les forcer ainsi d'affluer à Glasgow et autres villes manufacturières. Dans ses observations sur la richesse des nations d'Adam Smith, publiées en 1814, David Buchanan nous donne une idée des progrès faits par le « clearing of the states », entre guillemets. Ouvrez les guillemets. Dans les Highlands, dit-il, le propriétaire foncier, sans égard pour les tenanciers héréditaires, ouvrez la parenthèse, il applique erronément ce mot aux gens du clan qui en possédaient conjointement le sol, fermez la parenthèse, offre la terre au plus fort enchérisseur, lequel, s'il est améliorateur, improver, entre parenthèses, n'a rien de plus pressé que d'introduire un système nouveau. Le sol, parsemé antérieurement de petits paysans, était très peuplé par rapport à son rendement. Le nouveau système de culture perfectionné et de rente grossissante fait obtenir le plus grand produit net avec le moins de frais possible, et dans ce but, on se débarrasse des colons devenus désormais inutiles. Rejetés ainsi du sol natal, ceux-ci vont chercher leur subsistance dans les villes manufacturières, etc. George Ensor dit, dans un livre publié en 1818, ouvrez les guillemets, les grands d'Écosse ont exproprié des familles comme ils feraient sarcler de mauvaises herbes. Ils ont traité des villages et leurs habitants comme les Indiens ivres de vengeance traitent les bêtes féroces et leurs tanières. Un homme est vendu pour une toison de brebis, pour un gigot de mouton et pour moins encore, point de suspension. Lors de l'invasion de la Chine septentrionale, le Grand Conseil des Mongols discuta s'il ne fallait pas extirper du pays tous les habitants et le convertir en un vaste pâturage. Nombre de landlords écossais ont mis ce dessein à exécution dans leur propre pays, contre leurs propres compatriotes. Fermez les guillemets. Mais à tout seigneur, tout honneur. L'initiative la plus mongolique revient à la duchesse de Sutherland. Cette femme, dressée de bonnes mains, avait à peine pris les rênes de l'administration qu'elle résolut d'avoir recours aux grands moyens et de convertir en pâturage tout le comté, dont la population, grâce à des expériences analogues, mais faites sur une plus petite échelle, se trouvait déjà réduite au chiffre de 15 000. De 1814 à 1820, ces 15 000 individus formant environ 3 000 familles furent systématiquement expulsés. Leurs villages furent détruits et brûlés, leurs champs convertis en pâturage. Des soldats anglais, commandés pour prêter main forte, en vinrent aux prises avec les indigènes. Une vieille femme, qui refusait d'abandonner sa hutte, périt dans les flammes. C'est ainsi que la noble dame accapara 794 000 acres de terre qui appartenaient au clan de temps immémorial. Une partie des dépossédés fut absolument chassée. À l'autre, on assigna environ 6 000 acres sur le bord de la mer, terre jusque-là inculte et n'ayant jamais rapporté un denier. Madame la duchesse poussa la grandeur d'âme jusqu'à les affermer à une rente moyenne de 2 shillings 6 pence par acre aux membres du clan qui avait depuis des siècles versé son sang au service des Sutherland. Le terrain ainsi conquis, elle le partagea en 29 grosses fermes à moutons, établissant sur chacune une seule famille, composée presque toujours de valets de ferme anglais. En 1825, les 15 000 proscrits avaient déjà fait place à 131 000 moutons. Ceux qu'on avait jetés sur le rivage de la mer s'adonnèrent à la pêche et devinrent, d'après l'expression d'un écrivain anglais, de vrais amphibies, vivant à demi sur terre, à demi sur eau, mais avec tout cela, ne vivant qu'à moitié. Mais il était écrit que les braves Gaëls auraient à expier plus sévèrement encore leur idolâtrie romantique et montagnarde pour les « grands hommes de clan » entre guillemets. L'odeur de leur poisson vint chatouiller les narines de ces grands hommes, qui flairèrent des profits à réaliser, et ne tardèrent pas à affermer le rivage aux gros mareyeurs de Londres. Les Gaëls furent une seconde fois chassés. Enfin, une dernière métamorphose s'accomplit. Une proportion des terres converties en pâturage va être reconvertie en réserve de chasse. On sait que l'Angleterre n'a plus de forêts sérieuses. Le gibier, élevé dans les parcs des grands, n'est qu'une sorte de bétail domestique et constitutionnel, gras comme les aldermen de Londres. L'Écosse est donc forcément le dernier asile de la noble passion de la chasse. Ouvrez les guillemets. Dans les Highlands, dit Robert Somers, on a beaucoup étendu les forêts réservées aux fauves. Deer Forest, entre parenthèses. Ici, du côté de Gaïc, vous avez la nouvelle forêt de Glenfeshie. Et là, de l'autre côté, la nouvelle forêt d'Artverekie. Sur la même ligne, vous rencontrez le Black Mount, immense désert de création nouvelle. De l'est à l'ouest, depuis les environs d'Aberdeen jusqu'au rocher d'Oban, il y a maintenant une longue file de forêts, tandis que dans d'autres parties des Highlands se trouvent les forêts nouvelles de Loch Arkaig, de Glengarry, de Glen Morriston, etc. Point de suspension. La conversion de leurs champs en pâturage a chassé les Gaëls vers des terres moins fertiles. Maintenant que le gibier fauve commence à remplacer le mouton, leur misère devient plus écrasante. Ce genre de forêts improvisées et le peuple ne peuvent point exister côte à côte. Il faut que l'un des deux cède la place à l'autre. Qu'on laisse croître le chiffre et l'étendue des réserves de chasse dans le prochain quart de siècle, comme cela s'est fait dans le dernier, et on ne trouvera plus un seul Gaël sur sa terre natale. D'un côté, cette dévastation artificielle des Highlands est une affaire de mode qui flatte l'orgueil aristocratique des landlords et leur passion pour la chasse, mais de l'autre, ils se livrent au commerce du gibier dans un but exclusivement mercantile. Il n'y a pas de doute que souvent, un espace de pays montagneux rapporte bien moins comme package que comme réserve de chasse. L'amateur à la recherche d'une chasse ne met en général d'autres limites à ses offres que la longueur de sa bourse. Point de suspension. Les Highlands ont subi des souffrances tout aussi cruelles que celles dont la politique des rois normands a frappé l'Angleterre. Les bêtes fauves ont eu le champ de plus en plus libre, tandis que les hommes ont été refoulés dans un cercle de plus en plus étroit. Point de suspension. Le peuple s'est vu ravir toutes ses libertés, l'une après l'autre. Point de suspension. Aux yeux des landlords, c'est un principe fixe, une nécessité agronomique, que de purger le sol de ces indigènes, comme on extirpe arbres et broussailles dans les contrées sauvages de l'Amérique ou de l'Australie. Et l'opération va son train tout tranquillement et régulièrement. Fermez les guillemets. Le livre de Mr. Robert Somers, dont nous venons de citer quelques extraits, parut d'abord dans les colonnes du Times sous forme de lettres sur la famine que les Gaëls, succombant devant la concurrence du gibier, eurent à subir en 1847. De savants économistes anglais en tirèrent la sage conclusion qu'il y avait trop de Gaëls, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient qu'exercer une pression, entre guillemets, malsaine, sur leurs moyens de subsistance. 20 ans après, cet état de choses avait bien empiré, comme le constate entre autres le professeur Léon Lévy dans un discours prononcé en avril 1866 devant la Société des Arts. Ouvrez les guillemets. Dépeupler le pays, dit-il, et convertir les terres arables en pacage, c'était en premier lieu le moyen le plus commode d'avoir des revenus sans avoir de frais. Point de suspension. Bientôt, la substitution des deer forests au pacage devint un événement ordinaire dans les Highlands. Le daim en chassa le mouton, comme le mouton en avait jadis chassé l'homme. En partant des domaines du comte de Dalhousie dans le Forfarshire, on peut monter jusqu'au John O'Groats sans jamais quitter les prétendues forêts. Le renard, le chat sauvage, la martre, le putois, la fouine, la belette et le lièvre des Alpes s'y sont naturalisés il y a longtemps. Le lapin ordinaire, l'écureuil et le rat en ont récemment trouvé le chemin. D'énormes districts qui figuraient dans la statistique de l'Écosse comme des prairies d'une fertilité et d'une étendue exceptionnelles sont maintenant rigoureusement exclus de toutes sortes de cultures et d'améliorations et consacrés au plaisir d'une poignée de chasseurs, et cela ne dure que quelques mois de l'année. Fermez les guillemets. Vers la fin de mai 1866, une feuille écossaise rappelait le fait suivant dans ses nouvelles du jour. Ouvrez les guillemets. Une des meilleures fermes à moutons de Sutherlandshire, pour laquelle, à l'expiration du bail courant, on avait tout récemment offert une rente de 12 000 livres sterling, va être convertie en Deer Forest. L'économiste de Londres, du 2 juin 1866, écrit à cette occasion, ouvrez les guillemets, les instincts féodaux se donnent libre carrière aujourd'hui, comme au temps où le conquérant normand détruisait 36 villages pour créer la forêt nouvelle. New Forest, entre parenthèses. Point de suspension. 2 millions d'acres, comprenant les terres les plus fertiles de l'Écosse, sont tout à fait dévastés. Le fourrage naturel de Glen Tilt passait pour un des plus succulents du comté de Perth. La Deer Forest de Ben Holden était la meilleure prairie naturelle dans les vastes touffes de Badenoch. Une partie de la forêt de Black Mount était le meilleur pâturage d'Écosse pour les moutons à laine noire. Le sol ainsi sacrifié au plaisir de la chasse s'étend sur une superficie plus grande que le comté de Perth, de beaucoup. La perte en source de production que cette dévastation artificielle a causée au pays peut s'apprécier par le fait que le sol de la forêt de Ben Holden, capable de nourrir 15 000 moutons, ne forme que le 1/30 du territoire de chasse écossais. Tout ce terrain est devenu improductif, point de suspension. On l'aurait pu tout aussi bien engloutir au fond de la mer du Nord. Il faut que le bras de la loi intervienne pour donner le coup de grâce à ces solitudes, à ces déserts improvisés. Toutefois, ce même économiste de Londres publie aussi des plaidoyers en faveur de cette fabrication de déserts. On y prouve, à l'aide de calculs rigoureux, que le revenu net des landlords s'en est accru et, partant, la richesse nationale des Highlands. La spoliation des biens d'église, l'aliénation frauduleuse des domaines de l'État, le pillage des terrains communaux, la transformation usurpatrice et terroriste de la propriété féodale ou même patriarcale en propriété moderne privée, la guerre aux chaumières, voilà les procédés idylliques de l'accumulation primitive. Ils ont conquis la terre à l'agriculture capitaliste, incorporé le sol au capital et livré à l'industrie des villes les bras dociles d'un prolétariat sans feu ni lieu.